Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler du coup du roman de Lolita de Vladimir Nabokov et principalement de l'adaptation qui en a été faite par Adrien Lille.
Donc tout d'abord, on va commencer par faire un bref résumé du roman. Donc Lolita, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Humber, c'est comme ça qu'il s'appelle, dans le roman. C'est un homme d'une cinquantaine d'années qui, de la prison où il est enfermé pour homicide volontaire, fait un retour sur sa vie et ce qui va constituer le livre. Il revient principalement sur ses 10 dernières années, lesquelles ont été dédiées principalement à sa relation amoureuse, entre guillemets, avec Dolores Hayes, aussi appelée Lolita, sa fille de 12 ans environ au moment des faits. Et donc, suite à sa sortie en 1955, ce roman, qui est très controversé, s'est trouvé adapté sur grand écran, notamment par Stanley Kubrick en 1962 et par Adrian Lyne en 1997. Dans les deux cas, ces films mettent en scène une relation romantique et dramatique, plus qu'ils ne dénoncent les abus psychologiques et physiques d'un homme adulte envers une enfant. Donc aujourd'hui, on va plus parler de l'adaptation d'Adrian Lyne et le fait qu'elle pose un souci de fidélité quant à la transmission du message original de Vladimir Nabokov, puisque la dénonciation devient romantisation. Et on commencera par revenir sur l'histoire du livre en lui-même, puis nous parlerons des changements de scénario imposés par le format grand écran, et enfin nous terminerons en parlant des changements faits délibérément par Adrian Lyne.
Donc Lolita, c'est un livre qui porte assez clairement un message de dénonciation, et ça on le voit avant même le début de l'histoire dans un avant-propos qui est rédigé par un certain Dr. John Ray Jr. Il s'avère que ce dernier, c'est un personnage qui a été créé par Vladimir Nabokov lui-même, et le but de son intervention au début du livre semble être de dissuader les lecteurs de s'adonner aux pratiques d'Herbert Aber dans le livre, donc l'inceste et la pédophilie. Nabokov, du coup, sous couvert du personnage du docteur, nous explique que dans les années 50, au moins 12% des adultes américains de sexe mâle, je cite, « connaissent chaque année sous une forme ou une autre l'expérience très spéciale que décrit Humbert Humbert ». C'est donc probablement face à ce pourcentage élevé que l'auteur se trouve important de mettre au clair son message. Selon lui, Humbert Humbert est un personnage abject et horrible, qui n'est pas fait pour inspirer la sympathie. Tout au long de l'avant-propos, il utilise des mots forts qui ne laissent normalement pas trop de doutes au lecteur. Humbert Humbert est décrit comme un homme diabolique, anormal, qui n'est pas un gentleman. Cet avant-propos de 5 pages, ponctué donc par des termes diabolisant Humbert Humbert, se termine avec ce clair message de prévention qui est juste ici. Selon Vladimir Nabokov, ce qui importe dans les livres, c'est, je cite, « l'impact moral qu'il devrait avoir sur le lecteur sérieux. Car à travers cette poignante analyse personnelle, transparaît une leçon universelle. Cet enfant rétive, cette mère égoïste et cette obsédépante lente ne sont pas seulement des personnages hauts en couleur d'une histoire unique en son genre. Ils nous mettent en garde contre les périlleuses modes, ils stigmatisent des mots redoutables. Lolita devrait nous inviter tous, parents, travailleurs sociaux, éducateurs, à redoubler d'efforts et à faire preuve de vigilance et de sagacité afin d'élever une génération meilleure dans un monde plus sûr. » Suite à cet avant-propos, qui donc transmet assez clairement un message de prévention et de mise en garde au lecteur, commence le récit réel de Humbert Humbert. Humbert, on le dit tous de manière différente, mais c'est la même personne. Nous retrouvons donc alors, du début à la fin du livre, plusieurs termes qui y reviennent de façon assez récurrente. Souvenons-nous que Humbert Humbert étant le narrateur, ces termes, il les utilise pour se décrire lui-même, et donc en pleine conscience. Encore une fois, ça laisse assez peu de doutes quant au message que souhaitait transmettre l'auteur à la base. Donc du début à la fin du livre, Humbert Humbert se décrit alors comme étant un pédophile, un criminel, un fou ou encore un père incestueux. Donc, hop, voilà. Il y a quelques citations qui sont juste ici. On retrouve aussi plusieurs fois des métaphores faites au porc, il parle régulièrement de son groin et à la bête sauvage en général. Humbert Humbert, il utilise aussi sans gêne le mot viol, notamment dans toutes nombreuses scènes d'agression sexuelle qui se trouvent dans le livre, mais sinon dans des citations comme celle-ci, la dernière, page 160, où il dit, je cite, « Nous, donc les pédophiles, ne violons pas comme le font ces braves soldats. Nous sommes prêts à sacrifier des années et des années de notre vie pour pouvoir toucher une nymphette ne serait-ce qu'une seule fois. » Ce terme-là, en fait, c'est celui qui est le plus largement utilisé pour décrire Dolores, donc Lolita dans le récit, et il décrit des fillettes d'environ 8 à 14 ans qui ensorcelleraient des hommes grâce à leur nature démoniaque. Ça, c'est la définition qu'en donne Humbert Humbert au début du livre. Mais si ce terme qui est utilisé extrêmement régulièrement n'était pas assez clair, Humbert Humbert nous précise aussi très régulièrement que Lolita, ce n'est qu'une enfant, une fillette, une écolière, une élève de 5e, et tout au long du livre, il nous donne régulièrement l'information de son âge. Tout ça pour dire qu'une rapide étude de l'avant-propos du livre ainsi que des termes récurrents utilisés pour décrire Humbert Humbert ou Lolita ne laisse donc normalement pas trop de doutes quant au message que Vladimir Nabokov souhaitait transmettre avec ce livre, c'est-à-dire celui de la pédophilie, de l'inceste, du viol comme étant des crimes et donc à ne pas reproduire. Mais c'est cet important message qui se trouve compromis, ou du moins un peu modifié, dans les adaptations cinématographiques faites dans les années qui suivent, donc dans celle de Stanley Kubrick en 1962 et dans celle d'Adrian Lyne en 1997, sur laquelle on va se pencher maintenant.
Donc, comme l'a dit Léa, le terme nymphette est utilisé à outrance dans le roman, dans le but de mettre mal à l'aise le lecteur. Et ce terme est, selon une étude faite par Joanne Discroll Lynch sur son commentaire du roman de Lolita, le terme le plus courant dans le domaine de la pédopornographie. Donc ce terme ne laisse normalement planer aucun doute sur la nature de la relation entre Humbert et Lolita, et sur la nature de Humbert en lui-même. Cependant, le film se débarrasse totalement de ce terme, il n'est plus utilisé que 3 fois dans le film, au début et à la fin, lors des narrations internes de Humbert qui sont elles aussi effacées du film, et qui pourtant, comme expliqué auparavant, permettent le lecteur de comprendre qui est réellement Humbert, puisqu'il se décrit lui-même comme étant un pédophile, avec des mots crus et clairs. Ces suppressions s'expliquent notamment par la Child Pornography Prevention Act de 1996, qui pousse le réalisateur à supprimer plusieurs scènes trop explicites, comme la scène de l'agression sexuelle au début du livre, par exemple, lorsque Humbert se masturbe sur le canapé juste à côté de Lolita. Les scènes gardées sont également beaucoup moins explicites, et ces omissions, notamment celles des dialogues internes du personnage, ont pour conséquence d'oublier que le livre est narré par Humbert, qu'il exprime son propre point de vue et donc sa propre expérience biaisée sur cette histoire. Du coup, en d'autres termes, le film laisse entendre une narration plutôt omnisciente par moments, et qui résulte à l'impression chez la personne qui regarde que Humbert n'est que le personnage principal d'une histoire contée de manière neutre et objective. Par ailleurs, le film semble se concentrer davantage sur la psychologie et la personnalité des personnages plutôt que sur la dénonciation initiale de la pédophilie, et plus particulièrement sur la personnalité de Humbert. Au contraire d'ailleurs, la psychologie de Lolita est rendue plutôt au second plan, et certaines informations et certains visuels se trouvent du coup modifiés. Dans un premier temps, l'actrice de Lolita, déjà Dominique Swain, a en réalité 15 ans. Elle est donc physiquement déjà plus développée qu'une enfant de 12 ans. Et de plus, même si elle est décrite comme enfantine dans le livre, son comportement dans le film semble presque hyperbolique. Ses mouvements sont brusques et exagérés, par exemple quand elle mange des bonbons ou qu'elle souffle dans son chewing-gum pour faire une bulle, et aussi dans sa façon de marcher, par exemple. En outre, les gestes d'une petite enfant de 12 ans sont assez caricaturés par l'actrice qui a 15 ans au moment du tournage, et qui est aussi un choix obligatoire du réalisateur qui ne pouvait pas choisir une actrice plus jeune. Pour autant, Lolita reste un personnage sexualisé, ce qu'on remarque dans la scène où elle s'intéresse au chien de l'hôtel, et où elle s'assoit à 4 pattes en cambrant le dos, et ce qui n'est pas du tout décrit de cette façon dans le livre. De plus, même si c'est déjà le cas dans le livre, la personnalité entreprenante de Lolita est encore plus mise en avant dans le film, où elle semble constamment faire le premier pas, comme par exemple lors de la scène du baiser avant qu'elle parte pour le camp de vacances, et où elle initie le premier baiser avec Humbert, ou encore lors de la scène de leur première fois à l'hôtel. Par conséquent, en voulant assagir le message du livre, la relation n'est plus perçue comme une relation de viol et de violence psychologique, mais plutôt comme une relation incestueuse, questionnable certes, mais tout de même consentie, voire encouragée même par la victime. D'ailleurs, en plus de romantiser la relation, ces éléments ont un autre effet, notamment sur le personnage de Humber qui s'en voit devenir presque la victime de l'histoire à travers l'insertion d'humour et de fatalité. La personnalité de ce personnage est beaucoup plus travaillée que celle des autres personnages existants, et surtout à côté de la personnalité de Lolita. Quand dans le livre, on comprend très vite que la petite fille cherche à faire comme les adultes dans un premier temps, puis cherche à se prostituer auprès de son beau-père en échange de son amour, qui ne donne que sous cette condition, et ce qui est bien expliqué dans le roman. Dans le film, malgré quelques scènes de crise où l'on aperçoit quand même le mal-être profond du personnage de Lolita, la dimension psychologique du personnage n'est pas assez approfondie, et on se rappellera que les dialogues internes du personnage de Humbert sont complètement mis de côté, et du coup on n'a plus accès à ce qu'il pense mais plutôt à ce qu'il vit. On sait bien qu'il est attiré par Lolita, mais on n'a plus du tout accès aux stratagèmes qu'il met en place par exemple pour installer la relation malsaine entre eux, ni à comment il la manipule pour lui faire faire le premier pas. Du coup, quand Lolita est trop avenante avec Humbert et que ce dernier panique d'être vu par quelqu'un, par exemple, les scènes sont totalement dédramatisées et tournent légèrement au ridicule. La personnalité originale de Humbert change alors pour retrouver un homme inquiet, timide et théâtral, un peu victime de son sort et de la fatalité. Par exemple, son attirance sexuelle envers Lolita est complètement effacée à travers le film, avec la scène du canapé notamment, une des seules scènes où Lolita n'est pas consciente de ce qui se passe, qui est supprimée. Puis aussi, quand elle s'en va pour le camp d'été, Humbert, qui dans le livre ne ramasse qu'un bout de tissu appartenant à Lolita dans sa chambre,
Dans le film, il se jette de manière théâtrale dans l'armoire de Lolita pour simplement sentir son odeur et sa présence. Donc encore une fois, on met l'accent sur le désir de découverte sexuelle de Lolita et sur l'amour de Humbert envers la petite fille plutôt que sur les penchants sexuels et pédophiles de ce dernier.
Donc très important à savoir, Adrian Lynn voulait initialement pour le film beaucoup de voice-over. Il y a eu 3 scripts qui ont été écrits, mais le script final a été écrit, donc script final et retenu, a été écrit par un comité. En soi, c'est un patchwork des 3 scripts précédents. Les monologues internes de Humbert, ici, bien que présents, sont très peu nombreux comparés au film, au livre, pardon, qui lui a été écrit à la première personne du singulier. Par ailleurs, ces monologues souffrent d'un important manque de contextualisation. Humbert ne va jamais parler de ses troubles psychologiques, il ne va jamais se décrire comme un pédophile. Lolita ne sera qualifiée de nymphette que 2 fois à la fin du film. Et quant à ses inquiétudes concernant les dangers de leur relation incestueuse et illégale, eh bien c'est pareil, il n'y a aucune mention dans le film. Alors, format film oblige, de très nombreuses informations passent par la gestuelle et la mise en scène. Sur grand écran, ces monologues, sans ces monologues plutôt, et la contextualisation nécessaire, Lolita et Humbert n'ont plus l'air de l'expression d'un péché, pour reprendre les termes du narrateur, mais plutôt d'un couple complice, ce qui va avoir pour effet en fait, de changer la perception du spectateur de ces personnages. Alors on a là une mise en lumière quant à l'importance du fond et de la forme, puisque sur la forme, dans le film comme dans le livre, l'axe final est le même. Lolita s'enfuit en compagnie de Quilty, un metteur en scène de renom. Humbert va la rechercher pendant quelques années, il la retrouve, à ce moment-là elle est mariée, elle attend un enfant. Il va lui proposer de s'enfuir, ce qu'elle va refuser, et après ça, Humbert part en traque de Quilty, qu'il va trouver, exécuter, et après va se faire arrêter. Cependant, sur le fond, encore une fois en raison du manque de contextualisation, bien que la forme soit la même, les intentions de Lolita peuvent sembler radicalement différentes. Dans l'œuvre de Nabokov, il est rapidement clair qu'elle est prisonnière de Humbert, elle va chercher tout du long de l'histoire à s'enfuir. Humbert va régulièrement exprimer ses doutes et redoubler de vigilance justement pour la garder captive, alors que dans le film... c'est plutôt l'inverse, en fait, Humbert semble follement amoureux de Lolita qui, quant à elle, se joue de lui et va lui très régulièrement lui soutirer de l'argent. Alors nous pourrions avancer que dans le livre, ou plutôt le livre, raconte l'histoire d'un homme obsédé, alors que le film met en scène un héros romantique. Donc pour rappel, le héros romantique est défini comme généralement solitaire et marginal, socialement ou intellectuellement. Souvent incompris, il tisse des liens forts avec la nature, l'engagement politique, les amours impossibles, le sacrifice final, l'importance du désir et de la fatalité rythme la vie des héros romantiques. Par ailleurs, il y a 2 scènes clés du film qui vont venir vraiment appuyer ce changement de nature dans le personnage de Humbert, sur l'axe final. Tout d'abord, la confrontation avec Lolita, donc dans le livre. Lorsque Humbert retrouve Lolita, il va lui proposer de s'enfuir, ce qu'elle va refuser très calmement et elle va prendre le temps, la scène est relativement longue. Elle va lui expliquer que ce n'est pas possible. Dans le film, la scène est considérablement plus courte et elle va, en fait, elle va ouvertement se moquer de lui. Et ensuite, c'est la confrontation finale avec Quilty. Donc pareil, dans le roman, Quilty lui explique qu'il a sauvé Lolita en fait, d'une vie de misère et de l'asservissement d'un homme obsédé. Alors que dans le film, en fait, il avance le fait qu'il avait tout simplement plus de moyens financiers. Donc on retrouve encore une fois ce parallèle entre Lolita et l'argent. Si dans le livre, tous ces éléments ont pour effet de renforcer la vie dramatique de Lolita prise au piège de prédateurs, dans le film, on voit là un renforcement de la nature héroïque et ou dramatique de Humbert, vengeant le grand amour, lui ayant échappé. Donc, pour conclure, à travers les changements obligatoires et désirés pour cette adaptation, le message que souhaitait transmettre Vladimir Nabokov dans le texte source se trouve changé, ce qui va poser 2 soucis majeurs. Tout d'abord, les films produits par Hollywood étant plus accessibles que les livres de manière générale, ou en tout cas recevant bien plus d'attention en raison de budgets de production et marketing s'élevant à plusieurs millions de dollars, 61 millions dans le cas présent. la forme du message transmis par Adrian Lyne, c'est-à-dire celui d'une relation amoureuse et sexuelle entre un père quinquagénaire et sa fille mineure, comme un amour sincère et partagé à la fois romantique et dramatique, se retrouve calqué sur la personne de Vladimir Nabokov. Or, celui-ci avait pour but de dénoncer entièrement les crimes et troubles à l'origine même de cette relation forcée. Donc, par conséquent, Nabokov se retrouve à porter partiellement et malgré lui le message erroné transmis par le film de Lyne. Et enfin, ce changement de message pose aussi un problème sur le plan éthique, c'est-à-dire que la pédophilie et l'inceste, qui sont pourtant bien présents dans le film, sont souvent si implicites qu'ils s'en retrouvent, on l'a vu précédemment, romantisés. Le message prend ici une forme très dangereuse, car cette volonté d'humaniser le personnage de Humbert aux yeux des spectateurs, de pouvoir mieux le comprendre, incite donc indirectement et certainement involontairement à envisager, à porter un nouveau regard en fait sur ce genre de relation, celui de l'acceptation, ne condamnant absolument plus ce qui enfreint pourtant une multitude de lois établies depuis bien des années et dans de nombreux pays.
Merci.
Réception du film, est-ce que le public, lorsque le film est sorti, est-ce que le public est retourné lire l'œuvre de Nabokov ou est-ce qu'ils ont fait totale abstraction de cette œuvre et ils sont juste penchés sur le film? À ce moment-là, du coup, ils voyaient juste le film dans la romantisation sans penser vraiment à ce que Nabokov a voulu faire.
Déjà, d'après ce qu'on a lu, le film a fait un peu un bide déjà à la base. Il a coûté très très cher et en fin de compte, il n'a pas eu la réception qui était souhaitée. Après, est-ce que les gens ont vraiment relu le livre derrière? On n'a pas forcément l'information, mais en fait, c'est le livre. Alors, c'est sorti, le film est sorti en 97, le livre en 97, le film en 55. Ça remonte à assez longtemps quand même. Et le phénomène, il est pareil aujourd'hui quand on a des adaptations de livres, de sagas, etc. On est beaucoup à plutôt se pencher sur l'adaptation et à y faire confiance plutôt que d'aller lire un livre. Surtout que le livre, c'est un livre qui est long, qui est complexe, qui est dur. Est-ce que les gens ont vraiment pris le temps d'aller relire parce que c'est un pavé quand même, 600 pages, c'est pas simple. C'est pas certain. Après, c'est vrai qu'on n'a pas l'information particulièrement, mais c'est le cas encore aujourd'hui. C'est pas étonnant que ça ait été le cas il y a quelques années quand il est sorti, en fait. Encore maintenant, quand on a une adaptation d'un livre, à part si vraiment c'est vraiment un énorme succès, etc., les gens ont plutôt tendance à se reposer sur l'adaptation plutôt que d'aller relire. C'est beaucoup plus accessible, c'est normal.
C'est aussi un phénomène qu'on a beaucoup observé auprès des plus jeunes générations, parce qu'il y a quelques années, il y a eu l'anniversaire de la sortie du livre, qui s'est vendu à plus de 50 millions de copies, donc c'est quand même, entre guillemets, l'avantage, puisque le film, comme l'a dit Léa juste avant, il a coûté 61 millions à produire et à promouvoir. En fait, il a rapporté seulement 2 millions au final, au box-office global. Mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup d'adultes, par exemple, qui se sont replongés dans l'œuvre de Nabokov. Mais du côté des plus jeunes générations, c'est vrai que c'est possiblement moins le cas. D'autant plus que, comme disait Léa, c'est pas un livre facilement accessible en soi, au niveau de la lecture. Après, il y a eu quand même pas mal de retours assez négatifs sur le film quand il est sorti, dû justement à ce souci, encore une fois, dans cette optique de transmission. La difficulté du film, en fait, à retransmettre avec fidélité le message véritablement de Nabokov. C'est-à-dire que sur la forme, c'est quasiment la même chose. Bon, il manque quand même certains passages, mais dans les grandes lignes, c'est très très similaire. Mais on retrouve encore une fois cette inversion au niveau des personnages, que ce soit Humbert et Lolita, en fait.
Est-ce que vous avez lu l'œuvre originale et si oui, qu'en avez-vous pensé?
On l'a tous lu. Vu qu'on savait qu'on allait la travailler en français, on l'a lu en français. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous.
Réellement, si vous avez l'occasion de le lire, moi, c'est quand même un livre que je conseillerais, malgré le fait qu'il soit très long et par moments. Bon, on ne va pas se mentir, quand on le lit, une fois qu'on a terminé une session lecture, on n'a pas vraiment le moral. C'est pas agréable à lire, mais il y a beaucoup de sujets, entre guillemets, sociaux qui sont toujours d'actualité. Et c'est vraiment fascinant de voir que le livre, publié en 55 et qu'il est toujours aussi, encore une fois, oui, d'actualité, vraiment.
Puis Nabokov, c'est quand même quelqu'un qui écrivait très très bien, et Lolita, c'est vraiment un chef-d'œuvre d'un point de vue de l'écriture. Mmh. C'est magnifiquement écrit, et pourtant, à travers les thèmes, puis on n'a pas de répit hein, dans l'histoire. Et pour autant, c'est très très bien écrit. C'est incroyable. Donc, bon. Mais donc, oui, ça, c'était pas très agréable à lire. Quand on posait le livre, c'est vrai que ça nous arrivait pendant 2-3 jours de l'ignorer un peu et de se dire on refait ça la semaine prochaine. Mais si, on l'a quand même lu dans son entièreté et on a tous regardé le film aussi.
En tout cas, je pense que le livre est quand même plus envisageable à lire plutôt que le film qui, pour le coup, est vraiment. Enfin, je sais qu'on a mis pause plusieurs fois à certaines scènes parce que. Ouais, il fallait vraiment reprendre notre souffle parce que il met mal à l'aise, mais pas pour les bonnes raisons.
Si vous voulez regarder le film, peut-être plutôt se pencher vers celui de Kubrick qui, pour le coup. Et encore plus, l'implicite est encore plus présent que dans le film de Lynn, en fait, en raison de la censure qu'il y avait à l'époque, qui était plus importante encore qu'en 97. Mais je dois quand même avouer que, d'un point de vue mise en scène, Kubrick a été beaucoup plus astucieux, si je puis me permettre, que Lynn, ce qui fait qu'on arrive quand même à beaucoup mieux comprendre les messages un petit peu cachés, en soi, du film. L'humour est beaucoup plus présent. En fait, il a joué sur l'humour pour un petit peu contrer la censure. Mais on retrouve, par exemple, pour suggérer aux spectateurs par un moment l'exécution des sombres dessins de Humbert, en fait, un fondu, un écran noir qui apparaît plutôt qu'une scène de sexe forcée et très confuse dans le film de Lynn, en fait, où on a des gros plans sur la tête de Lolita, qui est censée en fait se faire violer, mais on la voit avec un grand sourire. Enfin, c'est très bizarre. Donc, plutôt se tourner vers le film de Kubrick si vous voulez le regarder.
En 97, Nabokov était mort, mais il avait des ayants droit qui veillaient à son œuvre et au respect de son œuvre. Est-ce que vous avez entendu parler de l'éventuel procès de ses ayants droit contre les réalisateurs du film, s'ils avaient considéré que c'était vraiment tordre sa pensée et son idée de départ?
Alors, procès, je ne sais pas si en soi il y a eu des procès. Par contre, je sais qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Il y a 3 scripts qui ont été écrits juste avant. Le tout premier était extrêmement fidèle au message de Nabokov. Après, il a été refusé. Il y a eu beaucoup de conflits, en fait, autour de toute la conception du film. Quant à savoir s'il y a eu des procès, je ne sais pas, mais c'est pas un projet qui s'est fait tout en douceur, ça a été assez tumultueux, donc ce serait en soi intéressant à regarder.
Et puis vu qu'en soi la forme est la même, est-ce que ça aurait, enfin je sais pas si du coup
on a pas l'information,
mais est-ce qu'ils auraient vraiment pu faire un procès pour le message qui en fin de compte est assez personnel, j'imagine, parce qu'en soi on suit la même on suit la trame du livre, en fin de compte. Au niveau chronologie, on est dans la même chose. C'est le message qui change, mais c'est assez subtil, j'ai envie de dire. Et en soi, pour quelqu'un qui n'a pas lu le livre, on peut imaginer que ce soit moins choquant, en fait.
C'est ça, ça dépend.
On ne voit pas tant le problème, parce qu'en fin de compte, par exemple, on ne l'a pas dit, mais l'âge de Lolita, dans le film, il n'est pas dit. À aucun moment. Il est suggéré dans une scène où on les voit rentrer dans un hôtel et il y a une grande pancarte marquée « Gratuit pour les moins de 14 ans ». C'est tout. À part ça, on sait que techniquement c'est sa fille, mais est-ce qu'elle a 12 ans? Est-ce qu'elle en a 17? On n'en a aucune idée, donc est-ce qu'ils ont vraiment fait un procès? Et si oui, est-ce que ça peut fonctionner alors qu'en fin de compte c'est l'interprétation personnelle qui est mise en jeu? Je sais pas.
Moi j'ai une question plutôt sur la figure de Lolita, parce que dans le roman de Nabokov, la distinction entre Dolores Hayes et Lolita est très très importante pour comprendre le personnage de Robert Humbert. Comment cette distinction-là est rendue, selon vous, chez Adrian Lyne et aussi chez Kubrick aussi?
Alors, elle est très très peu rendue, du moins chez le film de Lyne, puisque je crois qu'on entend le prénom Dolores qu'au tout début, quand sa mère la présente à Humbert. C'est le seul moment, il me semble. Ça fait plusieurs semaines que je l'ai regardé, mais je crois que c'est le seul moment où on entend son prénom. Le reste, il l'appelle Lolita tout le temps. Lolita, l'eau, de temps en temps. Mais sinon, on n'a pas vraiment la distinction, en fin de compte. Je ne sais pas dans le film de Kubrick.
Dans le film de Kubrick, Dolores, le prénom Dolores est utilisé un peu plus régulièrement. Après, ça reste quand même vraiment mineur. Mais en fait, quand il est utilisé, c'est vraiment sur le ton de l'humour. Donc, on ne retrouve pas vraiment le même modèle que dans le roman. C'est plus pour s'amuser en soi de la relation entre Humbert et Lolita.
Et qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation, on va dire, du prénom Lolita, notamment sur Internet, par exemple, en tant que surnom ou pseudonyme ?
On en a parlé hier, avant-hier, je ne sais plus. En fait, on s'est rendu compte, après avoir lu le livre, de pourquoi est-ce qu'on le retrouvait dans autant de contextes. C'est vrai qu'avant, on n'était pas trop au courant. Et ça fait un peu froid dans le dos de voir qu'il est utilisé toujours dans des chansons. C'est qui avait chanté la chanson Lolita ? Pardon ? Alizé, voilà, très jeune, très enfantine. Et c'est un peu dégueulasse quand on y pense de coller le nom. Et en fin de compte, c'est pas dit clairement, mais vu l'impact qu'a eu le livre et les adaptations cinématographiques, on se rend bien compte que le prénom il n'est pas utilisé pour rien parce que c'est pas un prénom qui est hyper commun. À part à ces moments-là, enfin, je sais pas si vous avez déjà rencontré une Lolita dans votre vie, mais et que ça court pas les rues, quoi.
Non.
C'est un surnom qui est surtout utilisé dans des occurrences où voilà, on met en scène des personnages, des femmes assez enfantines, hyper sexualisées. Et en fait, quand on connaît pas l'histoire, enfin, moi, il y a encore quelques mois, je savais pas, le rapprochement, il n'est pas fait quand on connaît pas l'histoire. Quand on connaît le truc, ça fait mal quand même.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci pour votre présentation.
Merci.